Gisèle vienne à Genève pour deux créations hors normes en tournée. C'est Kinder Totenlieder et Jerk. Alors Gisèle vienne, ces deux pièces, c'est une collaboration avec le poète, critique d'art et écrivain américain Dennis Cooper. Dennis Cooper qui a une écriture sans effet véritablement, qui est une écriture très sèche, très blanche, très crue aussi, qui a été saluée de multiples fois depuis ses premiers romans traduits au milieu des années 90 en France. Et puis évidemment, ses obsessions avec des mondes adolescents passablement dérangés, mortifères, ce rapport entre l'érotisme et le morbide, on songe à Bataille, à Genet, à Cathy Acker et tant d'autres. Et puis vous-même, donc, ce rapport entre le corps animé, le corps inanimé, la marionnette, ce qui est entre l'animé et l'inanimé, et puis évidemment cette manière de tuiler, de tisser un récit qui a parfois des rapports avec le nouveau roman, avec d'autres écoles, on y reviendra peut-être. Tout d'abord, pour débuter par Jerk, c'est donc l'histoire contée d'un trio de serial killers dans les années 70 au Texas qui aborde aussi des sujets assez troubles comme la pédophilie. En même temps, il y a des symboles comme un t-shirt avec « Humanity is overrated » en lettres gothiques, donc sur le poitrail, si j'ose dire, de Jonathan Capdevielle, qui joue, qui est à la fois ventriloque, montreur d'image et comédien. Et cette phrase qui signifie, je crois, « l'humanité est une valeur surréévaluée ou surfaite », c'est une phrase qu'on retrouvait chez un tueur en série ou un mass murder, peu importe comment on les appelle, c'était en novembre 2007, dans un lycée à une cinquantaine de kilomètres d'Helsinki, où il avait fait une vidéo qui était une sorte de revendication posthume de la chose, qui a été chargée 6 millions de fois, et c'était le même t-shirt, là c'était du blanc sur noir. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est quel est votre rapport à la réalité, cette manière d'interroger à la fois le réalité, le fantasme et différents niveaux de réalité dans Jerk.
Je dirais que ce qui m'intéresse dans Jerk, cette forme est assez différente de ce qu'on a pu faire précédemment. C'est que c'est une forme, je dirais, basée sur un fait divers réel. On est sur une forme linéaire, narrative, intelligible et je dirais peut-être rassurante sur la forme et assez classique dans une narration qui rappellerait la forme du roman du 19e. Sauf que la mise en scène crée une mise en abîme de ce rapport à la réalité de ce qui est dit. Et c'est effectivement, j'espère avoir, buts en fait en traitant cette forme narrative, c'était de la miner de l'intérieur. Voilà. C'est vrai que ce qui m'intéresse dans toutes les pièces que je mets en scène, c'est de créer des formes qui ne sont plus dans ce type de forme-là. Donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux nouveaux romans aussi. Je dirais de manière plus simple, les films de David Lynch sont construits un peu de cette manière-là, mais c'est effectivement moins sophistiqué que mon nouveau roman. Et ce qui m'intéresse à travers ces formes, c'est qu'évidemment, elles témoignent d'un autre rapport au monde, c'est-à-dire d'une perception du monde qui, pour moi, est beaucoup plus proche de la réalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on a un rapport au monde qui est pour moi plus proche de celui de l'inspecteur de police, c'est-à-dire je lis des signes. J'imagine pour moi qu'il n'y a pas de vérité supérieure, personne ne détient une vérité sur ce qui se développe autour de moi, et surtout évidemment donc je n'ai pas un regard objectif et ma lecture du monde d'une part est évidemment largement incomplète, et en plus évidemment mes fantasmes, mon imaginaire s'inscrit dans cette lecture du réel de manière consciente ou inconsciente, et je dirais que c'est effectivement la manière dont cette lecture du réel se brode qui se retrouve dans mes mises en scène. Et ce qui me paraît extrêmement intéressant par rapport à ce type de forme, c'est qu'effectivement, je dirais que la lecture des textes de Rob Grier a aiguisé ma perception du monde et je dirais a vraiment a permis de formuler cette grande vigilance qu'il nous faut avoir à l'égard de tous les signes qui nous entourent. Donc c'est je dirais c'est ces grandes questions là qui sont traitées dans le fond à travers toutes les pièces.
Alors dans Jerk, vous faites retour à une sorte de primitif de la marionnette. Vous utilisez la mariotte ou la marionnette à gaine, qui a une très longue tradition, sans doute pervertie, édulcorée par beaucoup de montreurs et par beaucoup aussi de films d'animation. Qu'est-ce qu'il en était justement, puisqu'on retrouve deux de ses acolytes et plusieurs personnages à la fois victimes et bourreaux sous forme de marionnettes qu'on va détailler, mais déjà pour ce type de monstration en fait.
Effectivement, la marionnette à gaine, le répertoire traditionnel de la marionnette à gaine est extrêmement violent et subversif. C'est-à-dire que la marionnette à gaine a été créée pour être politiquement et moralement incorrecte. C'est des choses qu'on n'avait plus le droit de présenter avec les comédiens. C'est une forme qui a été créée sur les marchés d'abord. Et on peut voir dans le répertoire de Punch et Judy, de Guignol, le répertoire ancien, on est vraiment dans des formes extrêmement violentes. C'est vrai que c'est intéressant dans ce rapport à la tradition, c'est-à-dire que maintenant, je dirais, en tout cas en France, les compagnies qui se revendiquent comme étant des compagnies traditionnelles de Guignol, pour moi, sont des traîtres par rapport à Guignol. Et il me semble que Jerk s'inscrit bien plus dans la tradition du Guignol. Et c'est vrai que même dans la tradition la marionnette à gaine, je dirais, le marionnettiste construit son histoire à partir parfois de structures anciennes, mais doit toujours faire référence à des éléments contemporains pour le spectateur. Donc évidemment, je pense que Jerk fait bien plus référence c'est vrai que c'est des formes d'actualité, donc on peut dire qu'on fait référence à des faits divers très très récents, à des faits divers, enfin là en l'occurrence à un fait divers des années 70, mais c'est vrai que c'était intéressant d'avoir ce signe qui évoquait ce fait divers finlandais de l'automne dernier. Voilà, après c'est vrai qu'aussi par rapport à la forme physique, c'est-à-dire qu'il y a différents types de marionnettes, mais la gaine c'est quelque chose qu'on gante et ça crée une dynamique beaucoup plus violente dans la gestuelle même. Et il y a un type qui m'avait enseigné la marionnette en France qui lui reste très subversif et qui malheureusement a jamais eu la même reconnaissance que ses compères, qui s'appelle Alain Lebon, et qui nous disait la marionnette à gaine, c'est le point, c'est comme le point levé, donc il y a quelque chose de l'ordre de la révolte en fait dans la marionnette à gaine. Et ça, je pense que c'est important. C'est à la fois un médium qui est grotesque, mais en même temps vraiment violent et réellement dangereux au-delà du grotesque. Et je pense que dans Jerk, on voit bien, la pièce est assez drôle au début, et je pense que cet humour devient une arme assez dangereuse par la suite en fait.
Alors, à vous entendre, on croirait vraiment écouter Dario Fo, qui disait effectivement qu'il avait été très influencé par les bonimenteurs, les montreurs du lac Majeur qu'il avait connus dans son enfance, et il appelait justement à l'histrionisme, c'est-à-dire au changement des identités, donc avec le changement de voix. C'est aussi le cas ici, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vraiment Jonathan de Capdeviel, qui est ce comédien ventriloque, montreur de figure, est également un boutaforie, c'est-à-dire qu'il se projette à l'extérieur de lui-même, mais ce que fait la parole se voit à l'intérieur du corps et à l'extérieur. Quelque chose d'assez prodigieux, et notamment un moment qui rappelle peut-être, mais alors c'est pas du tout écrit de la même manière, La plaie et le couteau de Enzo Corman, qui a été tiré donc de l'histoire légendaire au verdict de Gilles Doré, donc qui a ancien compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, qui aurait fait subir des sévices à près de 900 enfants en les torturant. Là, effectivement, on a une scène alors où il n'y a plus de marionnettes et où tout se passe à l'intérieur de la personne. Alors cette voix qui vient de l'intérieur, mais qui en même temps ouvre un espace imaginaire à l'extérieur, est proprement surprenant. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce résultat ?
C'est une idée que j'ai eue bien en amont et heureusement, parce qu'effectivement Jonathan a dû suivre un cours en fait de ventriloquie auprès de Michel Desgenefs, qui est un ventriloque célèbre des années 80 en France. Et voilà, donc il a appris à peu près pendant quasiment un an et demi. Jonathan Capdeviel est aussi quelqu'un de particulièrement doué, donc c'est vrai que son professeur disait que tous ses élèves n'y arrivaient pas aussi rapidement. Il faut aussi noter que j'ai rencontré Jonathan Capdeviel lors de mes études à l'École supérieure nationale des arts de la marionnette à Charleville-Mézières il y a 10 ans. Et que Jonathan était un excellent marionnettiste et qu'il connaissait déjà, enfin qu'il était déjà très doué dans la dissociation de voix, qui est quand même un exercice aussi important dans la ventriloquie. Donc il maîtrisait déjà très bien la dissociation de voix. Mais voilà, il fallait qu'il travaille évidemment cette dissociation apparente du corps et de la voix. Donc c'est à la fois un jeu d'acteur, ce qui est aussi un jeu d'acteur vraiment où effectivement il faut faire sa dissociation, savoir interpréter tout un tas de voix, et après c'est technique en fait.
Alors vous parlez d'une histoire linéaire, néanmoins on a l'impression en tout cas d'un feuilleté, c'est-à-dire de plusieurs récits emboîtés dans leurs sources. Donc c'est au départ l'un de ces acolytes meurtriers qui fait, semble-t-il, un témoignage dans une prison en face d'une volée de psychologie d'une université américaine. Et à la fin, la pièce va se sceller par une sorte de rapport de dissertation d'un étudiant sur ce qu'il a vu. Donc il y a plusieurs sources, il y a en même temps une interruption du récit à deux moments où le public est amené à prendre le relais. On se rappelle en 1926 du vol de Lindbergh, une pièce imaginée par Bertolt Brecht, qu'il avait imaginée pour les 8000 transistors qui existaient à l'époque, c'est-à-dire qu'il avait fait diffuser des partitions à peu près à tout le monde qui le demandait pour que tout le monde puisse jouer Lindbergh au même moment. En recevant cela. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il en est déjà sur cette question, justement, à un moment donné, où les spectateurs, à deux moments, sont amenés à lire le texte? Est-ce que c'est la faillite d'un certain imaginaire imagé? Est-ce que c'est un retour au scriptuaire? Là, il y a une interrogation très étrange sur ce qu'est déjà le spectacle vivant.
Là, c'est quelque chose qui est écrit dans la nouvelle de Denis. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que le comédien, enfin qui interprète David Brooks, explique au spectateur que ces passages-là étaient trop difficiles pour lui à jouer psychologiquement. Toute la pièce a l'air, enfin est réellement en fait une épreuve psychologique pour le comédien, mais est présentée aussi comme une épreuve psychologique rude pour le personnage de David Brooks, qui essaie de se distancier par rapport à ses crimes passés par le biais de la marionnette. Donc c'est vrai que le récit, la fiction écrite qui est distribuée aux spectateurs comme étant un texte réel, autobiographique, est une distance encore, c'est un endroit où l'interprète le personnage de David Brooks ne se sentait pas encore capable de présenter ce texte-là. Ce qui m'intéresse, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est évidemment aussi l'utilisation que peuvent faire les psychanalystes ou les psychiatres de la marionnette, vraiment comme outil thérapeutique. Donc il y a aussi cet aspect évidemment faussement thérapeutique dans la pièce. Le personnage donc de David Brooks échoue cette distance vis-à-vis du texte et en réalité vis-à-vis de son histoire passée. Il est intéressant aussi de constater que les spectateurs sont aussi pris au piège en fait, puisque eux-mêmes, quand je parlais des rires tout à l'heure, les spectateurs rigolent et il y a quelque chose de grotesque par rapport à la marionnette à gaines et on se sent protégé. Et à un moment donné, du fait de nos glissements de terrain, en fait, le personnage est piégé, mais les spectateurs tout autant en fait, et toute la distance vis-à-vis de l'histoire a été annulée. Donc c'est ce jeu-là qui est un petit peu périlleux avec les spectateurs. Et donc, quand le texte écrit et imprimé, pour moi, fait partie de ces glissements de terrain. C'est-à-dire qu'on a différents degrés de réalité. On a l'impression que c'est quelque chose d'encore plus réel. Et pourtant, curieusement, des personnages ont été interprétés devant nous, en trois dimensions. Et tout d'un coup, ces personnages deviennent des personnages d'un texte autobiographique. Apparemment autobiographique écrit, et tout d'un coup les personnages qu'on a vus en trois dimensions devant nous semblent entrer dans une fiction, et on a toujours mais en même temps ce texte semble être encore plus réel. Donc il y a cette ambiguïté entre toutes les scènes, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans des scènes de plus en plus réelles et en même temps d'être dans des scènes de plus en plus fictionnelles. Et je pense que c'est cette espèce de contradiction qui est aussi assez confondante en fait tout au long de la pièce.
Alors, un autre support que vous utilisez, que vous évoquez, qui est évoqué à la fois par le bruit et par les situations, c'est le Super 8. On se rappelle des 120 jours de Sodome, Salo de Pasolini, où la scène finale, terminale de torture, qui est une sorte d'affolement, en fait, comme il y a dans le récit, c'est-à-dire que les meurtres vont se succéder et on va s'entretuer quelque part parmi. Pasolini, je ne sais pas si nécessairement il le filme en Super 8, mais en tout cas l'image est extrêmement heurtée et on a ce sentiment-là. Vous utilisez utilisait la caméra Super 8, ce qui est très étrange au départ, c'est-à-dire que toutes les victimes ont chez Dennis Cooper cette fascination pour la mort, cette expérience des limites, même si elles n'ont pas lu Bataille ou d'autres, à faire, mais vraiment de tester comme beaucoup d'adolescents leurs limites. Et puis cette fascination, elle est presque érotique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce film qui est projeté comme ça avec ce sang et cette victime qui quasiment a un orgasme et qui demande à être torturée, à être exécutée, sauf qu'après, il y a la question de la souffrance et de la douleur qu'on aborde aussi et qui devient tellement insupportable que là, c'est presque l'organe qui demande grâce, si on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'il en est justement sur cette caméra Super 8 qui va jusqu'à s'encastrer, je crois, dans la tête d'un des protagonistes? Alors évidemment, on évoque le snuff movie, mais peut-être aussi d'autres choses, parce que c'est presque, je dirais même comique dans la surenchère.
Ah oui, c'est sûr qu'on est totalement dans la surenchère. C'est une problématique qui est vraiment dans toute l'œuvre de Cooper, ce rapport à l'image en fait, où le jeu en fait qui est fait par le serial killer, c'est qu'il transforme ses victimes en leur faisant incarner des rôles de personnages de télévision qui sont pour lui des images, qui sont effectivement le type Luc Alpine dans Flipper le Dauphin ou le petit comédien de Denis La Malice. Et ces caractères, donc dans La Nouvelle de Jerk, ces caractères assassins cherchent en fait à effectivement avoir une expérience érotique intense, et la psychologie des humains en fait les dérange dans leur expérience érotique, donc ils essaient d'être face à des images, à recréer le rapport à des caractères qu'ils aiment mais qui sont des caractères de photographie, de séries télévision. On parle de Jimmy Page, mais c'est un rapport à Jimmy Page comme sur les couvertures de vinyle, c'est pas, on parle, donc ils essaient d'annuler l'humain qu'il y a derrière. Mais évidemment, quand le criminel assassine, évidemment la personne assassinée à un moment donné est proprement humaine, s'exprime de cette manière-là, et ça c'est de l'ordre de la déception en fait pour le criminel qui est dans un fantasme et qui se rend compte que au moment où il réalise son fantasme, le fantasme s'échoue et la réalité émerge en fait.
Alors justement, c'est ce que rend bien peut-être un film comme Hostel, mais peut-être mieux les propos de Wolfgang Sofsky sur les pratiques de torture, c'est-à-dire que le bourreau ne supporte pas que la victime ne lui réponde pas, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue permanent et qui est même, je dirais presque réalisé post-mortem, c'est-à-dire que dans les tortures qu'il y a eu par exemple au Cambodge, que décrit Sofsky, dans le lycée de Twelsling S21, on gardait les gens presque artificiellement en vie pour qu'elles continuent à faire des aveux confessions et à dialoguer et à vénérer leur bourreau. Ici, il semblerait, alors peut-être j'ai mal compris le fil dramaturgique ou le pitch là-dedans, mais que les victimes renaissent d'une certaine manière pour chanter une chanson à la gloire du bourreau qui va jusqu'à l'adoration amoureuse, et il y a un dialogue qui se poursuit après la mort. Alors, c'est un truc très commun dans la marionnette. Ça correspondait à quoi, en fait, ce côté justement de renaissance de la victime? On l'a aussi, je crois, dans Kinder Totenlieder, où en fait les victimes renaissent. Quoi, comme dans Les parents de Jean Genet, pour témoigner l'autre chose? Ou qu'est-ce que c'est ce statut de corps ou ce qu'elles disent à ce moment-là?
Alors, on a deux, je dirais, on a deux qualités différentes entre Kinder Totenlieder et Jerk. Effectivement, c'est pas de la renaissance, c'est-à-dire qu'on a réellement des personnages qui sont des fantômes dans Kinder Totenlieder, donc les morts qui reviennent. Dans Jerk, les morts restent morts, mais on leur accole une identité qui n'était pas la leur en tant que vivant, c'est-à-dire qu'ils jouent comme des comédiens. En fait, c'est ça qui est très drôle dans Jerk, c'est-à-dire qu'on utilise le corps et on colle ce qu'on souhaite en fait par-dessus, et on fait interpréter ce cadavre interprète un personnage qui est réel mais dont l'assassin ne retient que l'image et le nom en fait.
Alors, il y a aussi un aspect de dernière chose sur Jack, un aspect poupée gigogne, c'est-à-dire que je crois que ce chef de meute meurtrier, si j'ai bien compris, porte un masque de panda Sally. On n'est pas chez Emmanuel Anty, mais j'entends il y a un côté peluche sympathique, mais même si elle a un côté déjà très fatigué et très étrange. Puis de l'autre côté, il y a une espèce de rongeur qu'on croit avoir croisé du côté de Shrek ou d'un dessin animé américain. Et puis évidemment, bon, on ne va pas tout révéler, mais c'est vrai qu'il y a un jeu sur le masque, mais d'avoir pris au départ des animaux totalement familiers qui sont en fait des choses auxquelles l'enfant ou même l'homme ou l'adolescent a affaire régulièrement, qui sont totalement inoffensifs à la base. C'est pas la première fois. D'ailleurs, je crois qu'il y a des serial killers qui utilisent la technique FUR, hein, donc de mettre des masses de criquets ou d'autres choses. Qu'est-ce qu'il en était là? Pourquoi jouer ce petit théâtre, disons, de marionnettes au départ peut-être assez innocent? Après, on voit que l'ourson quand même se masturbe, il y a du fist fucking, il y a de la corpophagie. Il faut dire quand même les choses, même si c'est plutôt suggéré, je dois dire, dans le mouvement, dans la répétition et dans la voix.
Oui, ben, c'est de la marionnette. Donc c'est vrai qu'au début, on a masqué les deux assassins, peut-être probablement pour mettre en valeur le petit humain qui est assassiné, aussi évidemment comme des assassins pourraient se cacher dans l'acte du meurtre. Après, c'est vrai que il est intéressant, comme on est dans la marionnette et dans les poupées, de renforcer ce rapport ludique aux poupées qu'on peut avoir et ce rapport cruel qu'on peut avoir évidemment avec les poupées. C'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup à la robe grise. Il raconte comme beaucoup d'autres, hein, que ses premières expériences sadomasochistes ont été faites avec des poupées ficelées, démembrées. Donc c'est un classique, je dirais, à ce niveau-là. Et du coup, ça a généré aussi un ressort dramatique, c'est-à-dire que au début, d'une part, ça rend la chose plus grotesque, hein, on avait envie d'être, joue beaucoup avec, sur Jörg particulièrement, avec l'empathie du spectateur, donc on avait vraiment envie que ce soit comique au début et pas du tout à la fin, donc on a essayé de bien renforcer les deux facettes de la pièce, et ça permettait de créer aussi ce retournement où à un moment donné, effectivement, des trois serial killers, il y en a un qui est plus âgé, qui est représenté comme un homme dans la pièce, mais qui certainement, en fait, en réalité, n'a que 30 ans, mais les autres, comme les autres gamins ont 16, 17 ans, ben, l'autre est plus âgé. Et on voit que donc le plus vieux est effectivement dans un rapport pédophile, l'autre qui se révèle est en fait l'assassin est en fait encore plus mignon que les assassinés. Et effectivement, lui, il a un rapport, il assassine ses petits, il viole et il assassine ses petits camarades qui ont le même âge que lui, qui représentent et lui-même a été en fait une victime. Enfin, il n'a pas été assassiné par Dean Corll, mais il a été aimé par Dean Corll. Donc lui-même, à un moment donné, a endossé ce rôle du petit adolescent désirable, mais il a changé de côté, il est devenu l'adolescent criminel, en fait, qui assassine ses semblables.
Alors, juste en parlant justement de ce côté révélateur, est-ce qu'on peut, je vais la citer de tête, mais ça va être un petit peu maladroit, donc c'est la citation de Robert Bresson qui est au début de Try, un des romans de Dennis Cooper, qui parle donc des personnages qui sont, je ne sais plus exactement, obscurs à eux-mêmes, enfin il y a trois déclinaisons par rapport aux personnages, je crois qu'il parle de ces acteurs ou de personnages de ces films, et justement de quelle manière quelqu'un peut se révéler à lui-même au travers d'une technique, et là on a d'un récit, et là on a l'impression que ce personnage est particulièrement clivé et tourmenté.
Il y a les deux, en fait, les deux complices qui effectivement traversent une crise à travers cette pièce et se rendent compte littéralement que effectivement la mise en la réalisation du fantasme n'est pas du tout la réalisation du fantasme, c'est-à-dire que la réalisation du fantasme en fait les fait glisser dans la réalité, ce qui eux essaient de complètement éviter. Ils aimeraient réaliser leur fantasme et développer cette situation fantasmée, et en fait il arrive exactement le contraire, c'est-à-dire qu'ils glissent réellement dans la réalité, le fantasme, la réalisation du fantasme échoue. Et je dirais que ce glissement brutal génère une crise très violente, c'est-à-dire que tout d'un coup, il se rend compte qu'évidemment, le personnage désiré n'est plus une image, mais est un humain. Enfin voilà, donc c'est vrai qu'il y a une espèce de grande crise traversée par les deux personnages qui sont les deux ados complices de ce serial killer. Et ce qui est intéressant, c'est que donc Jonathan Capdevielle, qui le comédien qui joue un de ces deux adolescents, est vraiment dans la crise, c'est-à-dire qu'il craque littéralement et échoue l'interprétation. Donc on peut se demander, et je pense que réellement, quand on voit la pièce, on peut toujours se demander si le comédien craque réellement, puisqu'il est vraiment à un moment donné, il échoue, et à la fois le personnage et le comédien semblent échouer la mise à distance que devrait créer le théâtre.